Récibook, vos livres ont la parole. Interprété et enregistré par les studios Récibook. Les contes des mille et une nuits. L'heure de se coucher étant enfin venue, le grand vizir conduisit Scheherazade au palais et se retira après l'avoir introduite dans l'appartement du sultan. Ce prince ne se vit pas plus tôt avec elle qu'il lui ordonna de se découvrir le visage. Il la trouva si belle qu'il en fut charmé. Mais s'apercevant qu'elle était en pleurs, il lui en demanda le sujet.
« Sire, répondit Scheherazade, j'ai une sœur que j'aime aussi tendrement que j'en suis aimée. Je souhaiterais qu'elle passât la nuit dans cette chambre pour la voir et lui dire adieu encore une fois. Voulez-vous bien que j'aie la consolation de lui donner ce dernier témoignage de mon amitié ?»
Shahriar y ayant consenti, on alla chercher Dinarzade, qui vint en diligence. Le sultan se coucha avec Scheherazade sur une estrade fort élevée, à la manière des monarques de l'Orient, et Dinarzade dans un lit qu'on lui avait préparé au bas de l'estrade. Une heure avant le jour, Dinarzade s'étant réveillée, ne manqua pas de faire ce que sa sœur lui avait recommandé.
« Ma chère sœur, s'écria-t-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me raconter un de ces contes agréables que vous savez. Hélas, ce sera peut-être la dernière fois que j'aurai ce plaisir. »
Scheherazade, au lieu de répondre à sa sœur, s'adressa au sultan.
Sire, dit-elle, votre majesté veut-elle bien me permettre de donner cette satisfaction à ma sœur ?
Très volontiers, répondit le sultan.
Alors Scheherazade dit à sa sœur d'écouter, et puis, adressant la parole à Shahriar, elle commença de la sorte. Première nuit, le marchand et le génie. Sire, il y avait autrefois un marchand qui possédait de grands biens, tant en fonds de terre qu'en marchandises et en argent comptant. Il avait beaucoup de commis, de facteurs et d'esclaves. Comme il était obligé de temps en temps de faire des voyages pour s'aboucher avec ses correspondants, un jour qu'une affaire d'importance l'appelait assez loin du lieu qu'il habitait, il monta à cheval et partit avec une valise derrière lui dans laquelle il avait mis une petite provision de biscuits et de dattes, parce qu'il avait un pays désert à passer où il n'aurait pas trouvé de quoi vivre. Il arriva sans accident à l'endroit où il avait affaire, et quand il eut terminé la chose qu'il y avait appelée, il remonta à cheval pour s'en retourner chez lui. Le quatrième jour de sa marche, il se sentit tellement incommodé de l'ardeur du soleil et de la terre échauffée par ses rayons qu'il se détourna de son chemin pour aller se rafraîchir sous des arbres qu'il aperçut dans la campagne. Il y trouva au pied d'un grand noyer une fontaine d'une eau très claire et coulante. Il mit pied à terre, attacha son cheval à une branche d'arbre et s'assit près de la fontaine, après avoir tiré de sa valise quelques dattes et du biscuit. En mangeant les dattes, il en jetait les noyaux à droite et à gauche. Lorsqu'il eut achevé ce repas frugal, comme il était bon musulman, il se lava les mains, le visage et les pieds et fit sa prière. Il ne l'avait pas fini, et il était encore à genoux, quand il vit paraître un génie tout blanc de vieillesse et d'une grandeur énorme, qui, s'avançant jusqu'à lui le sabre à la main, lui dit d'un ton de voix terrible
« Lève-toi que je te tue avec ce sabre, comme tu as tué mon fils !»
Il accompagna ces mots d'un cri effroyable. Le marchand, autant effrayé de la hideuse figure du monstre que des paroles qu'il lui avait adressées, lui répondit en tremblant.
« Hélas, mon bon seigneur, de quel crime puis-je être coupable envers vous pour mériter que vous m'ôtiez la vie ?»«
Je veux, reprit le génie, te tuer de même que tu as tué mon fils. »«
Eh, bon Dieu, répartit le marchand, comment pourrais-je avoir tué votre fils? Je ne le connais point et je ne l'ai jamais vu. »
« Ne t'es-tu pas assis en arrivant ici ? » répliqua le génie. N'as-tu pas tiré des dattes de la valise? Et en les mangeant, n'en as-tu pas jeté les noyaux à droite et à gauche?
J'ai fait ce que vous dites, répondit le marchand. Je ne puis le nier.
Cela étant, reprit le génie, je te dis que tu as tué mon fils, et voici comment. Dans le temps que tu jetais tes noyaux, mon fils passait. Il en a reçu un dans l'œil et il en est mort. C'est pourquoi il faut que je te tue.
Ah, oh, monseigneur, pardon ! S'écria le marchand.
Point de pardon, répondit le génie. Point de miséricorde. N'est-il pas juste de tuer celui qui a tué ?
J'en demeure d'accord, dit le marchand. Mais je n'ai assurément pas tué votre fils. Et quand cela serait ? Je ne l'aurais fait que fort innocemment. Par conséquent, je vous supplie de me pardonner et de me laisser la vie.
« Non, non !» dit le génie en persistant dans sa résolution. « Il faut que je te tue de même que tu as tué mon fils. »
À ces mots, il prit le marchand par le bras, le jeta la face contre terre et leva le sabre pour lui couper la tête. Cependant, le marchand, tout en pleurs et protestant de son innocence, regrettait sa femme et ses enfants et disait les choses du monde les plus touchantes.
Le génie, toujours le sabre haut, eut la patience d'attendre que le malheureux eût achevé ses lamentations.
Mais il n'en fut nullement attendri.
« Tous ces regrets sont superflus !» s'écria-t-il. « Quand tes larmes seraient de sang, cela ne m'empêcherait pas de te tuer comme tu as tué mon fils.
Quoi ?» répliqua le marchand. « Rien ne peut vous toucher. Vous voulez absolument ôter la vie à un pauvre innocent ?»«
Oui !» répartit le génie. « J'y suis résolu. » En achevant ces paroles,
Scheherazade, en cet endroit, s'apercevant qu'il était jour et sachant que le sultan se levait de grand matin pour faire sa prière et tenir son conseil, cessa de parler.
« Bon Dieu, ma sœur !» dit alors Dinarzade. « Que votre conte est merveilleux !»«
La suite en est encore plus surprenante, » répondit Scheherazade. Et vous en tomberiez d'accord si le sultan voulait me laisser vivre encore aujourd'hui et me donner la permission de vous la raconter la nuit prochaine. » Shahriar, qui avait écouté Scheherazade avec plaisir, dit en lui-même «
J'attendrai jusqu'à demain. Je la ferai toujours bien mourir quand j'aurai entendu la fin de son conte. »
Ayant donc pris la résolution de ne pas faire ôter la vie à Scheherazade ce jour-là, il se leva pour faire sa prière et aller au conseil.